Est-ce que tu vois une petite ouverture?
Oui!
Bien!
Bienvenue à la Manufacture Tourangelle.
Qu'est-ce que c'est encore que ça?
Le lieu en Touraine pour la communauté du fer.
Qu'est-ce que vous fêtez?
C'est pas correct. Mais qu'est-ce que vous faites?
C'est ma tournée d'inauguration.
Sur Radio Campus Tours et Radio Béton.
5 secondes et c'est l'ouverture.
C'est l'heure. C'est prêt.
Bonjour Radio Béton, bonjour Radio Campus Tours, cette voix que tu entends t'arrive du 244 rue Auguste Chevalier. Nous sommes en direct pour 2 heures de la Manufacture Tourangelle qui ouvre exceptionnellement aujourd'hui ses portes au public. Avec moi sur ce beau plateau, il y a Ludo, bonjour Ludo de Radio Béton qui est à la régie. Je te tends un micro pour que tu nous salues également. Bonjour Ludo. Merci à toi d'assurer.
Salut tout le monde.
Salut.
Ça sera
Ludo.
Peut-être mieux dans ce sens-là.
Merci à toi d'assurer la réalisation de ce plateau et avec nous pour lancer cette émission. J'ai le plaisir d'avoir 2 personnes éminentes de la FUN, la fabrique d'usage numérique. Julie Lallemand, bonjour. Et elle se saisit d'un micro. Bonjour Julie. Voilà donc coordinatrice de la FUN et avec toi il y a également Catherine Lenoble. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, peut-être voulez-vous expliquer à nos auditeurs sur Radio Campus et Radio Béton pourquoi cette journée porte ouverte de la FUN. Qu'est-ce qui va se passer pendant les jours à venir? Qui peut venir? Quand? Comment? Pourquoi faire?
Bonjour et merci à Radio Campus, Radio Béton pour être ici et amplifier un petit peu cet événement. Donc, que se passe-t-il donc à la Manufacture Tourangelle? Eh bien, donc c'est un projet qu'on a porté à plusieurs pendant un bon bout de temps et donc il nous tenait à cœur d'ouvrir le lieu, même si ce qu'on donne à voir pendant ces 2 journées, c'est vraiment un lieu en train de se faire, un lieu encore en chantier. Donc on n'est pas complètement prêt, mais pour autant on s'est dit qu'on allait organiser des portes ouvertes, un peu comme on organise des portes ouvertes d'une école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut venir voir les espaces, rencontrer les personnes qui font ce lieu, prendre de l'information. Et puis les portes ouvertes, c'est aussi une manière de dire bonjour, bienvenue, coucou, on est là, y compris au voisinage, dans le quartier dans lequel nous nous trouvons.
Alors 2 jours, je crois, de festivités. Qu'est-ce qui va se passer ici? On aura le temps pendant 2 heures d'expliquer exactement ce qu'est la manufacture, puisque les plus anciens dont je fais partie se souviennent qu'avant ça s'appelait Projet 244. Donc on aura le temps dans cette émission de dire ce qu'il s'est passé depuis, mais comme tu le disais, 2 jours pour faire découvrir la manufacture aux voisins, aux Tourangeaux. Peut-être que tu veux, Julie, nous en dire plus. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le programme?
Alors, vous pourrez découvrir les ateliers, visiter donc les espaces, rencontrer les personnes, les résidentes et les résidents de la manufacture. Vous pourrez justement voir les documentaires des tontons filmeurs sur le projet 244. Voilà, qu'est-ce qu'on vous a concocté d'autre? Des temps aussi de musique avec 2 soirées-concerts. Donc ce soir, ce sera Martine et ses copines et demain Trifouille Premier. Voilà, et différentes animations aussi autour de nos savoir-faire aux uns et aux autres. Donc vous aurez des animations autour du recyclage plastique par métamorphe. Au Fun Lab, on va faire un temps autour de toute l'activité Print Lab avec la micro-édition des collectifs artistes invités. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est déjà pas mal. Et
puis des visites un peu en continu, des artisans, artisanes qui sont là aussi pour parler de leur savoir-faire, faire des temps de démo. Je pense à Valentine et Marie, les céramistes. Bon, en tout cas, l'idée vraiment est d'ouvrir les portes, de faire un programme à la fois en journée et en soirée, puisque on s'est un peu questionné sur le format de cet événement. C'est vrai que ça se passe un mercredi et un jeudi en semaine, puisque ça, comment dire, ça permet déjà un petit peu aussi d'installer le, finalement ce qu'est la manufacture. C'est aussi un lieu qui est ouvert en semaine, dans lequel des professionnels ou des apprenants viennent travailler, se former. Donc c'était important pour nous de faire vivre le lieu en semaine, mais aussi d'avoir un petit glissement de programmation en soirée. Pour que justement ces portes ouvertes puissent, nous le souhaitons, mixer un peu des publics, qu'on soit professionnels, voisins, voisines. Et on a fait un petit formulaire d'inscription au départ pour imaginer un peu, jauger combien de personnes allaient venir. Et dans notre formulaire d'inscription, on a demandé si on était habitants, profil artisan, artiste ou structure. Et sur les 235 personnes qui se sont inscrites, on est très content de voir qu'il y a une centaine de personnes qui sont plutôt des habitants. Et pour le reste plutôt des structures ou des artistes, artisans, artisanes. Donc pour nous c'est aussi important cette dimension d'ouverture aux habitants, puisque on sait que ce lieu a été fermé longtemps et qu'il y a une attente, beaucoup de curiosité à voir comment ce lieu réouvre et ce qu'il devient.
Alors ordinairement, c'est un lieu de travail, la manufacture, donc c'est pas ouvert comme ça au public, donc profitez-en, auditeurs, auditrices, venez sur ces deux jours, on précise que c'est gratuit, je le redis, c'est important. Donc ça veut dire qu'il y aura des choses à voir, à faire, à écouter, est-ce qu'il y a des conférences ou des choses comme ça?
Oui, demain en effet, tout à fait, il y a un temps de table ronde de 15h à 17h. Intitulé Territoire fabricant, qui va un peu questionner la place de ce type de lieu et de projet, ce que ça apporte sur un territoire et comment ce type d'initiative un peu hybride participe à créer de l'emploi ou créer des dynamiques, en tout cas d'activités de fabrication locale en mêlant différents types de savoir-faire.
Donc ça veut dire que les gens peuvent venir aussi fabriquer un peu de choses. Là, il y a des petites démos qu'on peut faire soi-même.
Oui, alors c'est peut-être le moment où Christophe...
Ah oui, parce que voici qu'arrive Christophe Lejard, donc métamorphe, Precious, avec mon très bon accent, Plastique Touraine, mais j'assume, alors.
Oui, donc je représente Métamorphe, association de recyclage de plastique, et nous, pendant ces deux jours, on a nos machines, on fait des démonstrations de fabrication de toupies, de mousquetons, les choses qu'on fait en animation avec les scolaires, les groupes, pour montrer... comment on fabrique un objet en plastique recyclé. On explique aussi pourquoi il y a un problème avec le plastique et on passe assez vite à la pratique pour voir que le recyclage avec nos machines est à la portée de tous. Et on aura aussi des démonstrations d'objets plus importants que des mousquetons, parce que aussi notre objectif c'est de fabriquer du mobilier design durable et désirable, avec des chaises, avec des tables de pique-nique, et du coup montrer que effectivement avec nos machines on peut faire du recyclage de plastique artisanal et avoir une production qui peut être installée dans des lieux.
D'ailleurs, il y en a, disons, en démo dans la halle de la manufacture, des chaises qui sont fabriquées par vous. Là, j'en vois deux modèles verts qui sont là, et puis il y en a d'autres là. Alors, ces chaises-là, en fait, elles équipent des lieux de travail. Est-ce qu'on peut les acheter? Comment ça marche? Ou les fabriquer soi-même?
Oui, on a divers productions, prototypes, et des choses qu'on a fait pour des clients. Donc, on a fait un réfectoire pour l'école de Villandry avec des chaises qui avaient 40 ans d'âge et qui ont été rénovées avec des assises et dossiers en plastique recyclé. On a aussi des prototypes qu'on a pu faire. On a une table de pique-nique qui permet de recycler 200 kg de plastique qui est devant la manufacture. Donc des différents objets qu'on expérimente qui pourraient correspondre à des besoins de collectivités ou d'entreprises.
Donc ça veut dire que vous pouvez vous positionner sur des marchés publics.
Voilà, aussi grâce à la manufacture, c'est des choses qu'on pourra faire. Parce qu'effectivement, nous, on fait du recyclage de plastique, mais dans un projet, on ne peut pas faire 100% plastique. Et on a souvent besoin d'associer nos productions avec du travail de métal, du travail de bois, d'autres choses qui font qu'on peut avoir un projet complet voilà, qui répond aux besoins.
Et comme ça tombe bien, il y a toutes ces compétences à la manufacture.
Voilà, tout l'intérêt de la manufacture, c'est d'avoir des savoir-faire complémentaires et en un même lieu, beaucoup de professionnels réunis.
Et alors, une dernière question pour lever le mystère. D'où vient le plastique que vous utilisez pour faire vos créations ?
Oui, il vient de pas très loin, nous, en circuit court. Et en fait, du plastique, déchets, on en trouve partout dans le monde. Et surtout, des plastiques qui bénéficient d'aucune filière de recyclage. Donc, beaucoup de plastiques professionnels. On ne s'occupe pas de la poubelle jaune, des emballages. On ne s'occupe pas des filières qui sont organisées. Et ça fait encore beaucoup de plastiques qui ne sont pas collectés ni recyclés, parce qu'il y a du recyclage qui se met en place que si on a 10 tonnes tous les mois. Donc ça fait, c'est pas le cas de beaucoup de gisements. Donc on trouve beaucoup d'entreprises qui vont avoir 200 kilos, 2000 kilos de plastique et pour lesquels personne ne veut les prendre en charge parce qu'il n'existe pas de solution de recyclage en circuit court. Voilà, et c'est ça qui manque dans la chaîne de vie du plastique.
Allez, une dernière question, peut-être, sauf s'il est autour du plateau, quelqu'un en a d'autres pour toi. Comment vous allez stocker ce plastique ? Est-ce qu'il y a un hangar à plastique ici ?
Pas ici à la manufacture. On avait un autre atelier avant l'ouverture de la manufacture de Tourangelle qu'on a gardé et où on stocke le plastique. Donc c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir de la production pour que le stock ne s'accumule pas. Et voilà, pour l'instant, on a dans notre stock 5 tonnes de plastique de Touraine.
Merci. Alors, sur ce plateau, nous rejoint également Nicolas Barre de Make Ici. Bonjour.
Bonjour.
Et alors là, l'idée, c'était... ça, c'est une idée qu'on a eue en construisant ensemble cette émission. On souhaitait vous faire revenir, Nicolas Barre et Christophe Lejar, sur l'histoire contemporaine du 244. Voilà, donc de rappeler quelles sont les étapes qui ont précédé ces journées portes ouvertes de la manufacture. Donc il me semble qu'à partir de 2019, au commencement était un API, un appel à projet. C'était à l'époque de Christophe Boucher, maire de Tours. Alors peut-être que vous voudriez, là je me tourne peut-être plutôt vers Nicolas Barre, nous rappeler c'était quoi cet appel à projet et comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure.
Oui, donc du coup la municipalité de l'époque avait envie de réaménager 9 quartiers de la ville pour remettre des nouvelles destinations et réenchanter un peu la ville. Et il y avait un quartier qui avait été imaginé pour recréer de l'activité productive, donc celui dans lequel on est là, le quartier Saint-Sauveur. Et en fait, comme c'est des quartiers qui à chaque fois nécessitent plusieurs savoir-faire, des archis, des urbanistes, la construction, en fait, c'est plutôt destiné à des promoteurs, en fait, qui doivent constituer des équipes avec des archis et autres, mais aussi avec des exploitants potentiels. Bon, du coup, on s'est retrouvé dans le groupement avec Link City et d'autres, qui a remporté le programme, et avec l'enjeu de recréer en fait un quartier productif et notamment une manufacture dédiée à l'artisanat et au savoir-faire de la Touraine.
Donc un quartier entier, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des habitats, un bel habitat.
Oui, c'est-à-dire que là, donc la manufacture Tourangelle qui fait 1800 mètres carrés, c'est un dixième de l'ensemble des mètres carrés qui vont être refaits dans le quartier. Et donc à partir de début 2026, en fait, des nouveaux bâtiments vont être construits. Donc il va y avoir du logement, une maison médicale, un hôtel ou auberge de jeunesse, restaurant, boutique, parking, de l'habitat social, le médecin. C'est un quartier qui est recréé complètement.
C'est un phalanstère ?
Non, mais c'est un quartier complet. Mais avec l'ambition aussi de reconnecter sur les rives du Lyon, parce qu'en fait ça fait partie d'un programme urbain complet où il y a ce quartier dans lequel on est, mais il y a aussi les deux Lyons qui sont un peu réaménagés, il y a le Menton aussi, donc ils veulent recréer et désenclaver ce quartier qui était un peu éloigné.
Et alors, Make Ici, peut-être vous voulez vous préciser c'est quoi ? Parce que c'est un réseau national, il me semble. Et alors, c'est quoi ? En quoi ça consiste ? Et quel rapport entre vous et puis, par exemple, c'est ce promoteur immobilier ? Comment vous faites pour travailler tous ensemble en bonne intelligence ?
Make Ici, au fait, c'est une structure de l'ESS qui a été créée en 2012, que j'ai créée avec ma femme, moi, qui conçoit et qui anime ce qu'on appelait à l'époque et encore un peu aujourd'hui des tiers-lieux de production. Mais à vocation professionnelle, nous, notre cœur de cible d'usagers, c'est les artisans d'art. Donc on recrée des lieux, des espèces de coworking pour artisans d'art dans lesquels ils trouvent les services, les machines, les outils, les zones de stockage et la communauté qui leur permet de se développer. Donc on en a créé un premier en région parisienne et on en a créé 6 autres depuis. Et comme on a acquis une petite expertise, en fait, des promoteurs et mais surtout des mairies en fait nous appellent en disant bah voilà j'en voudrais un dans ma ville et demande aux promoteurs de nous contacter pour nous s'associer avec nous en fait.
C'est-à-dire de faire du promotariat, mais ça n'existe pas comme mot, enfin on va dire comme ça, du promotariat éthique.
Ouais, alors effectivement au début on se dit bonjour Bouygues, Eiffage et tout, effectivement c'est quand même un peu éloigné de l'ESS, mais à un moment en fait pour pouvoir refaire pour réhabiliter le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, il faut des compétences de réhabilitation mais aussi des compétences administratives qu'on n'a pas du tout. Du coup avec le temps on a compris comment fonctionner avec eux. Et en fait, on a trouvé un intérêt qui est assez... ils ont besoin de nous pour emporter des concours, refaire un quartier. Effectivement, le maire de Tours pourra confirmer que si la manufacture Tourangelle ne s'installait pas ici, il y a peu de chances que Bouygues puisse continuer à faire le quartier. En échange, on passe des partenariats avec eux où ils s'engagent à assurer du chiffre d'affaires aux artisans qui vont s'installer sur le site. Parce que du coup, comme des bâtiments vont être construits, il va y avoir besoin de menuisiers, de charpentiers, de serrurier et autres. Et on a un partenariat et ils vont amener du chiffre d'affaires aux artisans qui vont s'installer. Donc on a créé comme ça avec le temps un partenariat qui les intéresse eux, mais aussi qui nous permet nous qui a beaucoup d'intérêt pour nous quoi, et surtout pour la communauté des artisans du site.
Donc c'est un échange de bons procédés.
Voilà. Alors, j'ai du bon procédé, ça reste quand même des structures énormes et nous des toutes petites. Hein, faut faire attention quand même à ce que le projet n'est pas trop phagocyté par eux. Mais en tout cas, je pense qu'à Tours, en le faisant comme ça, Manufacture Tourangelle, en s'associant à plusieurs structures, la manière dont on a bossé, je trouve que. L'inauguration, même si à un moment il faut un temps politique et un temps où l'Ixity se met en avant, évidemment. Hein, parce qu'autrement, sans eux, le projet n'existait pas, mais ça reste quand même. Ils sentent quand même qu'il y a quelque chose de plus fort que ce qu'ils font d'habitude. Quoi. Donc ils sont un peu moins. Ils prennent un peu moins de place, je trouve. Ils savent que, quand même que le projet se fait, parce que en grande partie, on va dire, grâce aux exploitants. Quoi.
Et donc ça a été mis en valeur aussi ce matin sur l'accueil des élus, puisque ce matin, de 11h à midi, je crois, il y avait les élus qui étaient invités à venir découvrir cette manufacture. Donc j'imagine que le promoteur, Mekissi et les acteurs d'ici ont pu aussi parler de ce partenariat.
Ce matin, c'est ce qu'on avait vu là, quand on a organisé l'événement. À un moment, il y a l'événement organisé par la manufacture, Catherine et Julie qui ont piloté tout le projet, puis à un moment on s'est dit il faut un temps politique, il faut qu'il soit organisé par Bouygues. C'est leur moment, c'est eux qui ont. Puis ça leur permet aussi d'expliquer à tout le monde que c'est le premier bâtiment d'un quartier complet qui se fait. Donc moi j'ai trouvé que notamment Monsieur Saint-Cric, donc secrétaire général, qui parlait avec ses tripes, qui était assez impressionné par le lieu et qui était un peu sous le coup de l'émotion de ce qui pourrait se faire ici, en fait.
Je vois que ça réagit autour du micro, alors je vais tendre les micros parce que en fait, je les ai tous gardés pour moi.
ce qui me fait réagir en effet, c'est que ce matin, le temps de l'inauguration protocolaire, quelque part, c'est aussi, c'est aussi autour d'un livrable du bâtiment. Et puis là, on a 2 jours aussi pour finalement raconter ce qu'on va y faire. Donc c'est vrai que ce matin, il y a des temps de discours qui sont consacrés. Mais c'est vrai qu'on sent bien. Et en effet, j'ai trouvé aussi que le discours du sous-préfet, Monsieur Saint-Cric, était. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de. Donc il y a de l'attente, mais il y a de la, de la surprise aussi de voir à quoi ressemble ce lieu, l'énergie qui s'en dégage, peut-être parce que c'est pas si souvent qu'on a des alliances un peu hybrides, et peut-être parce que Tours est une ville de taille moyenne, on n'a pas des projets comme ça tous les quatre matins comparé à d'autres, voilà, des, de plus grandes métropoles. Et donc on a un peu une forme d'alliance entre des acteurs associatifs, des acteurs privés, des profils d'artisans, artisanes, des statuts individuels. Et donc tout ça, c'est un peu un pari pour nous tous de se dire aussi que c'est dans ces alliances-là qu'on est en train de s'inventer des futurs.
D'ailleurs, pour en revenir à ce projet CHARE, j'ai envie de dire, donc, avec un S, S-H-A-R-E, parce qu'avec mon accent, ça peut être confusant. Voilà, il y a
c'était le nom du
projet initial.
Oui, du projet initial.
Et donc, dans ce projet initial, l'acte 2, c'est rejoindre ce projet Métamorph et La Fun. Donc, du coup... Pourquoi vous avez décidé les uns et les autres qui est allé chercher qui, qui a été rejoint le projet, comment ça s'est passé?
Je peux juste lancer, au départ, nous, la FUN, avec notre atelier, le FUN Lab, on était installé à MAM depuis 2016 et 2021-2022, enfin au bout de 5 ans à MAM, l'atelier, n'étant pas exactement adapté à nos activités, parce qu'un atelier de type Fab Lab, c'est un lieu où on fait du bruit, il y a de la poussière, on accueille des publics, et c'est vrai que même si on a été très contents d'être à MAM, puisqu'on a eu un loyer à tarif préférentiel de la part de la métropole. Tout ça, c'est l'histoire de la FUN avant même que Julie et moi on en fasse partie. En tout cas, le FUN Lab était à MAM, mais pour autant, le lieu MAM n'était pas en adéquation finalement avec... avec nos activités. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se trouve un autre atelier. Donc c'est comme ça que nous, en tout cas, on s'est mis en mouvement. On a commencé à chercher des espaces. Il y a même eu pendant un temps l'idée d'aller au Beaumont. Il y a eu des discussions avec la mairie, mais pareil, les Beaumont ne correspondaient pas non plus à notre activité. Les Beaumont, c'est plutôt saisonnier, du printemps à l'automne, etc. Bon, bref, donc ça ne correspondait pas. Et il se trouve que parallèlement, il y avait donc l'État qui lançait un programme, le programme Manufacture de proximité, pour encourager le développement d'ateliers de fabrication, mais la condition était d'avoir la maîtrise foncière, c'est-à-dire de se dire ok, on est dans ce lieu, mais on en est soit propriétaire, ou en tout cas on est pas dans les conditions dans lesquelles on était à MAM, on était locataire. Donc il a fallu qu'on cherche où atterrir, dans quel lieu, sous quelles conditions. Et c'était le moment où Mekissi venait régulièrement à Tours pour avancer sur le projet Saint-Sauveur. Métamorph était aussi dans des questionnements de locaux. Et donc on s'est réunis autour de ce programme Manufacture de proximité en se disant... Il y a peut-être par effet d'opportunité, se dire qu'on pouvait se réunir tous ensemble dans un même lieu, puisque c'est vrai que, je le répète, mais c'est vrai que dans une ville de taille moyenne comme Tours, ça aurait été, en termes de devenir pour nos activités, l'intérêt quand même plutôt de mutualiser de façon générale. Il vaut mieux qu'on soit, on est à l'heure quand même des mutualisations pour, c'est comme ça que petit à petit ça s'est monté. Peut-être Christophe, tu veux compléter?
Nous pour l'association Métamorph, c'est vrai que nous on a un autre atelier qu'on a gardé Et du coup, par contre, c'est, ce qu'il y a, c'était la connexion avec d'autres acteurs qui soient un peu dans la même démarche de produire, de développer d'économie circulaire. Donc, c'est vraiment de rentrer dans ce projet-là et avoir ce pied-à-terre au centre-ville avec une communauté importante d'artisans qui nous séduisait dans le projet pour ne pas rester tout seul dans notre atelier à Maitré et de pouvoir monter des projets à plusieurs.
Et alors, il y a même la suite du projet, c'est qu'il y a deux autres structures qui ont rejoint. C'est Ecopia et Woodpecker.
Ecopia et l'ébénisterie Tourangelle et Woodpecker. Alors,
oui, donc juste de dire voilà, que s'ils veulent arriver aussi, ils vont venir sur le plateau pour présenter leur structure.
Alors, nous avons Marion d'Ecopia, justement.
Voilà, super.
C'est formidable. On parlait des structures qui font la manufacture, celles qui ont rejoint le projet. On parlait d'Ecopia. Te voilà.
Voilà, donc peut-être Marion, tu veux nous expliquer c'est quoi Ecopia ?
Alors Ecopia, c'est une association d'insertion et de formation pour le milieu culturel et artistique dans la région Centre-Val-de-Loire. Et qui a fêté ses 20 ans de création récemment.
Donc c'est-à-dire que vous êtes un lieu où vous proposez des formations, comment ça se passe ? C'est des formations pour qui, sur quelle chose précisément ?
Et ben, on forme vraiment le milieu artistique et culturel, c'est-à-dire qu'on va proposer dans notre catalogue des formations comment créer son entreprise artistique et culturelle, on va proposer comment communiquer sur les réseaux et en global, comment communiquer avec son activité culturelle ou artistique. On va aussi faire de la médiation. Voilà, c'est assez un éventail assez large de formations. Depuis quelques années, on forme aussi pour les VHSS avec Agogé Conseil. Que te dire de plus ? C'est vraiment multiple et on s'ouvre aussi à d'autres perspectives avec la RSO. Donc pour tout ce qui va être la responsabilité environnementale, droits humains, etc. dans les entreprises. Donc on essaye aussi d'être force de proposition avec ce qui se passe actuellement et les problématiques environnantes dans tous les secteurs, mais ciblées aussi dans le culturel et artistique. Ouais.
Alors, puisque tu mentionnes Agogé Conseil, je crois que c'est Madame Rubio et sa collègue. Et du coup, là, je pense, est-ce qu'on peut dire que Ecopia a un intérêt certain pour les femmes qui font la scène, le spectacle vivant ?
Oui, tout à fait. Bien sûr, ouais, on est complètement, complètement dans cette idée d'égalité entre femmes et hommes et aussi d'être force de proposition pour mener à bien des luttes dans les égalités, aussi dans la musique, dans les arts visuels, arts plastiques, arts vivants, secteur artistique. Mais on est aussi avec HF+, région Centre-Val-de-Loire, donc on a des actions aussi avec elles et eux, et on fait en sorte de lutter ensemble. Ouais.
Je crois que tu es graphiste aussi, je spoil.
Oui, je suis graphiste.
Est-ce que tu mets ces talents-là à contribution aussi dans le cadre d'Ecopia ?
Alors moi, à Ecopia, je suis chargée de communication. Mais c'est vrai que ma casquette de graphiste me permet de proposer d'autres angles de création. Et moi, je suis toute nouvelle, hein, ça fait même pas un an que je suis dans l'association, mais de mettre en place aussi de la communication un peu plus impactante et ciblée, je pense que ça peut que aider dans ce sens-là. Ouais.
Je crois que Catherine voulait réagir.
Oui, c'était pour mentionner des choses qui font lien entre aussi, en effet, la FUN et Ecopia. Mais en effet, on est des structures adhérentes du réseau HF. Et puis, en effet, je voulais mentionner une super initiative de la part d'Ecopia qui a fait naître l'incubateur essentiel, un programme d'accompagnement pour des femmes qui entreprennent dans le champ artistique et culturel. Donc j'en parle aussi parce que je suis parfois sollicitée par Ecopia pour le jury, et on est bien partie prenante aussi à la FUN pour faire en sorte que les personnes qui prennent part à ce programme, de aussi leur faire connaître le Fab Lab, les outils du Fab Lab, et on aime bien voir justement des croisements, ou en tout cas des personnes qui passent par ce parcours et se saisissent des outils du Fab Lab, comme Élise Audesson, qui fait partie de la promo essentielle de cette année. Et qui travaille sur un projet donc d'un espace de création artistique et inclusive, donc pour soutenir des artistes en situation de handicap mental. Donc elle est vraiment au stade du développement de son projet, et donc je tiens entre les mains un petit flyer tout juste imprimé en réseau, donc avec les outils d'impression de microédition du Fun Lab. Tout ça pour dire que justement, voilà, on peut à un moment donné être accompagné par Ecopia, venir voir le Fab Lab, se dire ah tiens, là il y a des outils concrètement dont je peux me saisir pour faire avancer mon projet. Bah, par exemple, un support de communication, ça en fait partie. Voilà, c'est aussi pour donner des petites illustrations concrètes de ce que l'on arrive à faire tous ensemble ici à la Manu.
Et donc événementiel, hein, parce que à ce qu'il paraît, c'était mythique les 20 ans d'Ecopia. Donc peut-être, est-ce que tu veux nous en dire un mot ?
Mythique, ah oui. C'est vrai que c'était, bah, on était le premier événement de la Manufacture Tourangelle, hein, qui a eu lieu le 30 janvier de cette année. Et oui, c'était quelque chose de grandiose, et en même temps d'un peu surprenant, parce que dans un lieu qui n'a encore rien accueilli d'événementiel, c'était un sacré pari, et c'était super. C'était vraiment une très belle journée, une très belle soirée, et on est très contents du résultat et des retours qu'on a encore actuellement.
C'est une façon de baptiser les lieux.
Exactement, c'était un peu ça, le baptême, le grand baptême.
Il s'est passé quoi alors dans cette journée, pour dégoûter ceux qui n'ont pas pu y aller ?
Et bah, dans les temps forts, il y a eu une belle table ronde sur l'après-midi. Il y a eu deux concerts, Cocopelli, La Cigu. Il y a eu des temps d'échange, des temps de partage. Le matin, on a fait venir en interne tous nos formateurs et formatrices d'Ecopia qui nous suivent sur nos formations pour les remercier, et aussi pour faire un petit bilan avec eux et elles. Et voilà, une journée assez dense et assez pleine de joie et de beaux partages.
Merci à toi. Donc on mentionnait tout à l'heure Woodpecker aussi. Ah, je vois qu'un micro se tend. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter ?
Je suis Delphine, je suis la présidente de la société Woodpecker. Avec mon conjoint qui est mon associé, qui est ébéniste, on a monté la société Woodpecker, et donc du coup on propose tous les deux des meubles, de l'aménagement intérieur, toutes ces choses-là pour le particulier, le professionnel.
Et voilà. Tu es aussi ébéniste ?
Moi je ne suis pas ébéniste, moi j'accompagne les ébénistes, j'accompagne mon conjoint qui est ébéniste, l'idée c'est qu'il crée, je fais l'administratif.
D'accord. Et donc, c'est votre entreprise, comment vous avez eu envie, en fait, de la relier à ce projet où il y avait déjà Ecopia, Métamorph, La FUN ? Comment vous êtes entrée dans la boucle ?
En fait, on est arrivé par les cafés manufactures. Les cafés manufactures, c'était situé à la FUN Lab à MAM. Et en fait, on y allait pour prendre les informations sur l'avancée du projet de la manufacture et voir si on pouvait y être résident simplement en tant qu'ébéniste dans l'atelier partagé, l'atelier bois. Et on a été à toutes les réunions d'information et à force de se rencontrer et de discuter, on s'est vu intégrer ce lieu et y avoir les missions qu'on a aujourd'hui.
Alors comment ça se passe? Vous êtes résident à temps plein? Comment ça marche?
On est gestionnaire de la manufacture qui nous accueille en résidence. Donc Johan s'occupe de faire toute la mise en pratique. Il a par exemple aménagé, créé tous les établis, notamment celui sur lequel on discute. Et il s'occupe de la fabrication et moi je m'occupe de l'administratif comme je vous ai dit. Et donc concrètement sur la manufacture, c'est-à-dire que c'est moi qui vais gérer les inscriptions des nouveaux résidents et c'est lui qui va mettre en place la construction.
Alors là, je m'adresse aux personnes autour de la table, puisque tu nous expliques que vous êtes gestionnaire du site. Comment ça marche? Ça veut dire que vous êtes tous gestionnaires du site? Comment c'est?
En fait, aujourd'hui, aujourd'hui, on a des missions de gestion plus, mais quand la SIG va se créer, on aura tous des missions un peu particulières. Métamorph aura des missions, la FUN en aura d'autres, nous on en aura certaines, mais Ecopia aussi. Et en fait, à tous, ça fera la gestion du lieu. Nous, on a fait la mise en route, en fait, le temps que les choses se mettent en place.
Alors, on est encore en travaux dans le fonctionnement. Alors, peut-être, est-ce que tu veux compléter?
Oui, le projet, c'est de créer une SIC, c'est-à-dire une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, initialement, on pouvait penser qu'il y aurait une entreprise gestionnaire du lieu. Et finalement, le collectif a pris sa place pour devenir aussi une structure qui est gérée collectivement. Donc des SIC, on en a des exemples sur Tours. On a la salle de spectacle Bateau Ivre, qui est un projet citoyen porté par des porteurs de projets, mais aussi par tous les Tourangeaux. Donc la SIC, société coopérative, c'est pas seulement une société qui appartient à ses employés, c'est une société qui appartient au territoire. Donc nous, on est partie prenante, cofondateur de cette coopérative. Et aussi, on intègre dans l'aventure nos partenaires, nos fournisseurs, la ville de Tours, la région, ce qui permet de faire quelque chose de plus grand que nous, chacun de notre côté, de vraiment faire un nouveau lieu au service du territoire.
Pourquoi tu voulais participer à ce lieu, Catherine? Cette idée de collectif, de faire un nouveau lieu ensemble où chacun est partie prenante?
C'est un peu, le fait d'arriver dans un espace que l'on partage avec des moyens que l'on mutualise. On en arrive un peu de façon évidente, en effet. De tenter de s'organiser tous ensemble. Donc là, c'est vrai qu'on est, on est vraiment encore dans une phase transitoire, parce que je dirais là, d'abord, il y a eu la livraison du bâtiment, ensuite, chacun s'installe. Nous, la FUN, on est arrivé justement un peu en dernier, la fin janvier, donc le temps que chacun s'installe, mais néanmoins, pour que le lieu tourne, ça passe aussi par de la gestion collective, de l'animation collective, et donc tout ça, ne peut pas se faire uniquement par la juxtaposition des structures actuelles, mais imaginez qu'une structure méta, donc de type SIC coopérative, pourrait être le bon véhicule. Donc tout ça est vraiment, en chantier, en devenir, mais je pense que c'est un peu la suite logique de nombreuses structures et nombreuses personnes et acteurs, actrices qui arrivent dans un lieu collectif sont amenés à se poser pour trouver à fonctionner ensemble et aussi, être un peu solidaire par rapport à l'avenir. Et pouvoir trouver des projets qui vont soutenir l'ensemble des personnes investies dans ce lieu.
Et ça fonctionne aussi parce qu'il y a des multiples compétences, donc des compétences en gestion, des compétences sur le bois, donc c'est-à-dire que vous pouvez administrer et gérer seul, tous ensemble, mais sans forcément d'incursion extérieure, votre lieu, c'est ça ?
Les compétences de chacun, c'est les forces du collectif. Et donc, oui, exactement. à nous tous, on a des compétences qui permettent à ce lieu, très certainement dans l'avenir, de vivre, de bien vivre et de se développer.
Et alors juste une question peut-être avant de faire une pause musicale. Pourquoi une SIC et pas une SCOP, par exemple ?
Vraiment, la différence, c'est de faire entrer des acteurs extérieurs à l'activité ou proches de l'activité. Donc une SCOP, c'est une entreprise qui appartient à ses salariés, et une SIC, c'est une entreprise dans laquelle prennent part les partenaires, les élus. Donc voilà, c'est quelque chose de plus large.
Au démarrage d'une SCOP, tu dois un peu d'emblée salarier des personnes, à minima de personnes. Donc il y a aussi une logique de, comment dire, un peu la somme ou l'économie que tu dois avoir réunie pour pouvoir lancer ta SCOP, là où la SIC, la construction, peut se faire avec un rythme où l'économie peut arriver plus progressivement. Donc c'est aussi des...
Voilà. C'est la notion d'intérêt collectif aussi qui est importante, parce que c'est vrai que la coopérative, c'est maintenir une entreprise, c'est l'intérêt des salariés. Alors que là, on a une visée plus collective, donc c'est l'intérêt des Tourangeaux, de la ville, d'un quartier, d'un territoire pour lequel on va être au service. Et dans la gouvernance, chacun va du coup... a le droit de participer à une voix pour le début de la vie d'une manufacture tourangelle et la suite de sa vie se passe dans l'intérêt de tous sur le territoire.
Une voix par personne, quelle qu'elle soit. C'est ça le principe de la SIC ?
Ça dépend, ça se décide en collectivité. Effectivement, on peut choisir de répartir le pourcentage des voix, mais tout le monde a droit à la parole. Après, il y a des collèges, c'est la complexité de la gouvernance, c'est une gouvernance plus compliquée qu'une entreprise ou une association classique. Effectivement, on a les résidents, les salariés, les partenaires, les collectivités qui sont représentées dans des collèges différents.
Et alors, est-ce que dans cette SIC future, il y aura quand même un ou une salarié gestionnaire du lieu ou pas ?
C'est l'objectif. Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. Mais
pour l'instant, c'est une répartition des tâches entre résidents et membres de la coopérative. Le temps que la coopérative existe déjà, puisse avoir une entité juridique et puis avoir ses propres salariés. Donc, globalement... pour faire tourner le lieu, chacun, nous, on fait tourner notre activité, mais pour faire tourner le lieu, il faut deux personnes à plein temps. Et là, ces deux plein temps, on les répartit sur une dizaine de personnes.
Merci. Donc, je me tourne vers mon camarade en régie pour nous lancer une pause musicale. Que va-t-on écouter ?
Eh bien, on va replonger dans la soirée des 20 ans de Ecopia, puisqu'on avait Cocopelli, mais aussi la Cigu, qui officiait ce soir-là. Eh bien, c'est avec la Cigu et leur marée que nous allons continuer.
Coupantes comme des rasoirs. Le courant sera cru.